introduit toujours une tsara. Etc. Ça introduit toujours des problèmes. Donc une certaine tristesse. Mais là, les gens, ils devaient être super heureux. Ils viennent d'être libérés. D'accord? Ils sortent de l'esclavage. Ouais, il y a de la tristesse. Ensuite, Beshalach Paro et Ha'am. La Torah, elle nous dit que c'est Paro qui a renvoyé le peuple. C'est pas Paro qui les a renvoyés, c'est Hachem qui les a pris. Paro, il a été contraint d'acquiescer, mais c'est, quand on lit le texte, ici, on a l'impression que c'est Paro qui a gentiment, voilà, allez-y, mes enfants, c'est sympa. Ça ne correspond à rien du tout. Et puis, on dit, pourquoi il ne les a pas envoyés par le chemin le plus court, qui était donc le chemin qui passait le long de la mer? C'est-à-dire, on aurait passé par Gaza, et etc. Le chemin le plus court. Pourquoi? Parce que on a eu peur qu'il, voyant une guerre, ils se disent, c'est pas la guerre, on va retourner en Égypte. D'abord, une remarque que fait mon maître à Volbey ici. Il dit, Rashi explique, Pen Yenachem. Bon, il y a une crainte. De crainte que Pen Yenachem Ha'am Birotam Milchama Veshavu Mitzrayim. Alors Rashi dit, Yarchevu marshava al vit nous lève la chouve. Ils vont penser, réfléchir et se dire pourquoi on est sorti. On n'aurait pas dû sortir parce qu'on va se faire massacrer là, dans la guerre. Et ils se disent, bon, peut-être qu'il vaudrait mieux retourner. Retourner en Égypte. Mais c'est une marshava. Alors, le Ravoli dit, Afilu im bemetziut lo yashuv, que même si en réalité, ils vont pas retourner. Avalrak itchartu. Mais ils vont avancer, mais en fait, ils vont regretter d'être sortis. On a fait une erreur. Alors, vous m'avez dit ici quelque chose. Pourquoi c'est tellement grave que, dit qu'en vérité, charata zu mevatelet et kol ha'hesegim haruchaniim. Ce regret-là, il allait annuler tout ce à quoi, tout le niveau auquel ils sont arrivés spirituellement. Sur le principe que dit la Gemara dans Kiddushin, que je crois qu'on en a parlé récemment, que Atoé à la Rishonot, vous savez, quand on parle de la Tshuva, on explique toujours le côté complètement extraordinaire de la Tshuva, que la Tshuva, elle nous permet de prendre un événement de notre vie et en quelque sorte le revivre ou en tout cas nous mettre dans une situation comme si on l'avait vécu autrement. On a raté, on a fait des bêtises. Alors, ou bien la tchouva va nous permettre d'annuler l'effet des bêtises, ou mieux encore, si on fait une tchouva mais ahava, on va transformer ces bêtises en qualité On va se retrouver, au lieu d'être à moins 5, moins 20, on va être à plus 20. Mais ça n'existe pas seulement dans un sens. Tout ce qui existe dans un sens existe dans l'autre sens aussi. Atoel harishonot, ça veut dire, si quelqu'un se dit, ben, au lieu de faire toutes ces mitzvot et de me priver de cela, j'aurais mieux fait d'aller manger des choses interdites et mettre les doigts de pied en éventail sur la plage plutôt que d'étudier, de faire attention à ce que je mange, etc. Toutes les mitzvot qu'il a faites, s'il les regrette, il les perd. C'est obligatoire parce que ce qu'Hachem fait, c'est toujours Zé le Oumadzé. Il n'y a pas de chose où Hachem fait que dans un sens. C'est aussi possible de le faire dans l'autre sens. C'est pour l'équilibre dans la Bechira, c'est nécessaire. Je ne sais pas si c'est Mouchar dans Rashi, mais en tout cas, voilà comment lui, il lit la chose. Pardon?
Une question. Est-ce que ceci, vraiment, c'est le truc? Lorsqu'une personne fait une mitzvah ou fait un effort, il va faire un effort sur la mitzvah.
Oui.
D'accord? Par contre, maintenant, il regrette d'avoir fait cette mitzvah.
Oui.
Est-ce que ça va annuler la mitzvah ou ça, il est qu'on est-il de l'effort qu'il a fait?
Ah, il a fait. C'est qu'en est-il de ce qu'il a pas fait, quand il a fait la bêtise, il a aussi fait des efforts. Il faut aussi.
Des formes négatives, ouais,
Oui, c'est la même chose. C'est vraiment un renversement complet, quoi. Mais on va regarder, comme l'autre, j'ai déjà fait comme ça avec vous, je veux voir avec vous comment Rabbi Feinstein explique le début de la paracha, parce que c'est tout à fait original. Rav David, c'était un énorme Talmid Chacham. Je dis, je crois. Et je vous ai parlé de sa jeunesse. Il est né quand M. Weinstein était. Son père, c'était le grand Possek. Et lui, il est aussi un très grand Possek, un énorme Talmid Chacham. Et comme il vivait en Union soviétique, avant d'émigrer en Amérique, et qu'il y avait là-bas une obligation d'envoyer les enfants dans les écoles où on leur bourrait le crâne sur le matérialisme dialectique, et que son père voulait pas de ça. Son père, il lui a pas appris à lire. Il a annoncé urbi et orbi que son fils, il savait pas lire. Et il lui a effectivement pas appris à lire. Mais il lui a enseigné. Quand il avait 9 ans, quand ils ont voyagé, quand ils sont venus, il connaissait des Masertot par cœur, mais il ne savait pas lire. Il a une super tête. Son père lui a enseigné les Masertot par cœur. Et quand les gens voulaient l'inscrire à l'école, il ne sait pas lire, on ne va pas le faire lire. Débile, mandal. Son père a pris ce risque, en fait. Le deuxième frère, son petit frère, il est né en Amérique. Et M. Weinstein, il avait aussi réussi à. Il y avait un problème, mais pas de mikvaot. Enfin, on n'a pas le droit d'aller au mikvé. Mais il s'est arrangé avec un ingénieur qui construisait une piscine pour rendre la piscine bedieved, en tout cas. Kasher comme mikvé. La Rabbessin n'est jamais allé au mikvé là-bas, mais pour que les gens puissent aller au mikvé, ils allaient à la piscine. Ils savaient, la piscine était kasher comme mikvé, mais il y avait en tout cas. Bon, vous savez, bon, le père était déjà archi connu et lui aussi. Mais bon, c'était quelqu'un de. C'est original, comme vous allez voir. Enfin, vous avez peut-être déjà vu, on a déjà travaillé un peu d'après lui. Alors, ce qu'il dit sur le début. Donc, il remarque que Vaihi, c'est un lachon de tsar. Alors, il dit, normalement, ça aurait dû être, bon, ça on voit tout seul, ça aurait dû être un jour de Simcha pour le clan d'Israël. Et malgré tout, il y avait un mélange d'une tsara avec ça. C'est quoi la tzara? La tzara, c'est Shelo Nacham Elokim Derech Eretz Plishtim. C'est que Hachem, alors, je ne crois pas qu'il parle de ça, mais je voulais faire remarquer que nous, dans la Haggadah, on dit très clairement que c'est Hachem qui nous a fait sortir d'Égypte. Et ici, le Shem qui est utilisé, c'est Elokim. Bon, ça m'a frappé. Bon, on verra si on peut en dire quelque chose. En tout cas, le Ribbono shel Olam m'a dit, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas les faire prendre le chemin qui traverse chez les Plishtim, directement, qui est le chemin le plus direct pour aller en Eretz Israël. Kikarov ou l'Arzor le Mitzrayim? Parce que c'est proche de les faire revenir en Égypte. Alors lui disait, il y a beaucoup de caravanes de marchands qui circulent, etc., sur ce chemin. Donc ça sera très facile de retourner en Égypte s'ils prennent ce chemin-là. Et c'est ça le pshat de Kikarovou. Je ne peux pas les envoyer, Kikarov, c'était Karov qu'ils vont rentrer en Égypte. Alors il dit, bien entendu, ils ne vont pas décider d'eux-mêmes de retourner en Égypte. C'est seulement que c'est-à-dire quand les Bnei Israël vont voir les Plishtim, ils vont les voir arriver, sortir à leur rencontre pour faire la guerre. Alors, ils vont regretter le fait d'être, bon, pourquoi on est arrivé là, quoi. Et ils se demanderont, c'est pour ça qu'on est sorti d'Égypte. Nous, on n'est pas des soldats. On ne sait pas du tout comment faire la guerre. On va retourner en Égypte. Tovlano lachou, le Mitzrayim. Pour nous, c'est mieux d'aller retourner en Égypte plutôt que de faire une guerre sans savoir comment on fait la guerre. On va être massacré. Alors, bien entendu, il y a une question. Qui dit qu'ils vont se retrouver dans une situation de guerre. Akadosh Baruch Hu va certainement veiller à ce qu'il n'y ait pas de guerre. De la même manière que, par exemple, Yaakov Avinu, quand il a entendu que Shimon et Lévi avaient massacré Shechem, il a dit, mais vous êtes complètement fou. Indépendamment de tout le jugement qu'on peut porter sur le fait de massacrer toute la ville, mais vous, achartem oti, toutes les villes alentour vont ça de vont se lier les unes aux autres et ils vont m'attaquer. Vous avez provoqué ces gens inutilement. Il a dit, Vahi, Khetat Elokim. Aléarim, Asher Svirtehem, Velot Fou Achre Bnei Yaakov. Akadosh Baruch Hu a fait qu'ils n'ont pas réagi. Ah, et comment, pourquoi ils ne réagissent pas? Ils pouvaient anéantir en rien de temps ce petit groupe de gens qui est autour de Yaakov. Ils sont, je ne sais pas, 5-6 villes. C'est tout. Akadosh Baruch Hu, il a fait qu'il n'y a pas une guerre, c'est tout. Pourquoi il y aurait la guerre là? Hachem s'est occupé d'eux, c'est Hachem qui les a amenés. Il les a amenés ici, alors il ne va pas les amener pour faire la guerre, pour être confrontés à la guerre. Donc, ce n'est pas du tout clair qu'ils vont être confrontés à une guerre. Sauf que, bien entendu, ça fait partie du cheshbon ici. Si les Plishtim ne font pas du tout la guerre, ne nous font pas la guerre, ben tant mieux. Mais finalement, ce qu'il veut dire ici, finalement, c'est sûr qu'il y aura des guerres. Pas la guerre ici, obligatoirement, avec ces Plishtim. Il y aura de la guerre, il y aura des guerres. Ça prendra 10 ans, ça prendra 20 ans, ça prendra peut-être 100 ans. Ça veut dire qu'il y a pour nous un certain limoud. Parce que il faut bien se dire que si c'est pour lire un récit de guerre, il y a des récits beaucoup plus intéressants que le récit de la guerre ici, telle qu'elle a été faite contre les Égyptiens. Donc le livre ici, le Sefer Shemot, au début, il vient pas me raconter la guerre. Il vient pas nous raconter des histoires. Il vient nous enseigner la Torah, c'est un enseignement. Et donc si on nous enseigne cette idée de peine, yé milchama, que peut-être il y aura une guerre, ça veut dire que on nous parle de situations où éventuellement il y aura une guerre. Il y aura des guerres. Alors, ça veut dire quoi? Il y a un limoud que nous devons, il y a une leçon qu'on doit tirer de cette situation. C'est-à-dire, milchama, yare. On doit apprendre, comme si, même si il y a une guerre contre nous, on ne doit pas avoir peur. Parce que je dis, je répète, Hachem Ish Milchama. Hachem est un guerrier, c'est Hachem qui fait la guerre pour nous. Donc, il n'y a pas lieu, et Hachem, évidemment, il a peur de rien. Quand Goliath est arrivé avec toutes ses armes et toute son armure, etc., pour lutter contre David. Et quand il a vu qu'en face de lui, on a envoyé un jeune homme qui visiblement ne connaissait rien de la stratégie de guerre, etc., il lui a demandé, Goliath lui a demandé, est-ce que je suis un chien? Que tu viens avec moi avec des bâtons? Et David lui a dit, à toi, tu viens contre moi avec ton épée, avec ta lance, avec tes armes. Et moi, je viens contre toi, Hashem Hashem Eloka, Hashem Tserakot, Eloke Maarachot Israël, Asher, Chérafta. Moi, je viens contre toi, pas du tout avec des bâtons. Moi, je viens contre toi au nom d'Hashem, Hashem Tserakot. Je viens au nom de celui qui est Elokei Marachot Israël, Asher Chérafta. Toute cette multiplicité de juifs là, auxquels tu t'adresses de façon méprisante. C'est sûr que David a compris que il sait bien qu'il est devant Goliath, un géant. Mais il n'avait pas peur. Pas peur de lui. Parce qu'il savait que Hachem Ish Milchama. Il savait bien que la guerre, c'est pas lui qui va la faire. Mais c'est Eli Barechev, Eli Basusim, Vanachnu, Hachem Hachem. Mais il faut encore s'interroger. Après tous les miracles qu'Hachem a fait pour le clan d'Israël, ils ont vu quand même toutes les makot. Ils ont, voilà. C'est clair que, a priori, on pourrait penser, bon, il devrait avoir confiance en Hachem, confiance dans le Ribbono shel Olam. Je sais pas, mais a priori, on peut dire que si nous, on était dans cette situation-là, est-ce qu'on aurait dit que il y a déjà eu suffisamment de démonstrations de la toute-puissance du maître du monde, de Ribbono shel Olam? Peu tout. Bon, mais nous, on vit pas à cette époque-là. Et nous, on ne sait pas du tout pourquoi ils étaient pas, ils n'avaient pas confiance en Hachem. Pourquoi Hachem sait qu'ils n'auront pas confiance. Ils vont pas dire, il n'y a rien à craindre. Mais dans le passouk, si on regarde bien, c'est marqué Vahi Beshalach Paro et Ha'am. Et là, déjà, faut interroger, c'est ce qu'on a dit. Est-ce que c'est Paro qui a renvoyé le peuple? C'est Ribbono shel Olam qui a pris le peuple. Lakachat lo goy mikerev goy. C'est marqué, qui bechozek yad, otsianu, Hachem, mimitsraïm. Hachem nous a sortis d'Égypte avec une main forte, yad chazaka. C'est pas Paro qui nous a envoyés. Mais si on regarde le dialogue, en quelque sorte, on voit que même après que Paro, il a reconnu, OK, je peux pas les maintenir en esclavage. Malgré tout, il a dit, OK, je ne vous réduis pas en esclavage, mais malgré tout, je ne vous permets pas de sortir. Bon, tout à la fin, vous vous souvenez? Enfin, cette année, on n'a pas reparlé de ça, mais au moment de Makot Bechorot, de Makat Bechorot, pardon, Paro a appelé Moshe, il a dit, partez maintenant. Et Moshe lui a dit, d'abord, on va pas partir comme des voleurs en milieu de la nuit, on partira le matin. Et deuxièmement, on va pas partir comme ça, on partira pas tant que tu ne nous auras pas donner un guet, dont tu ne nous auras pas donné un document dans lequel tu reconnais que nous ne sommes pas, nous ne sommes plus tes esclaves. C'est marqué que Paro a dit non, ça je ne donne pas. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Je ne peux pas maintenant vous obliger de travailler pour moi, je ne peux pas, ça fait un an que vous ne travaillez pas, mais je ne vous libère pas. Alors, mon cher dit, on n'est pas pressé. On peut attendre. Paro est revenu, il a dit, hein, c'est insupportable, hein. Il y a tellement de morts et ça continue de mourir tant que vous êtes là. Et donc, il a signé. Il a donné le document. Qu'est-ce que un homme de chair et de sang aurait fait dans cette situation-là? Il aurait manifesté sa force. Tu veux pas signer? Ouais, c'est vrai, je vais manifester la force. Je vais t'obliger à signer. Il l'aurait pris en main. Il l'aurait dit, essaye de résister, je te casse. Ribbono shel Olam, il n'a pas fait comme ça. Il a permis à Paro de décider par lui-même. Et c'est ça, au point que le pasouk dit Vahi Beshalach Paro. C'est Paro qui en. Comme si Paro avait quelque chose à dire là dans cette affaire. Il n'a plus rien à dire. Néanmoins, le pasouk dit. Se présente comme si Paro avait quelque chose à dire. Le clan d'Israël, il craignait ça. Parce que, quelque part, les choses apparaissaient comme si il lui restait encore un peu de force à Paro. Quelque part, ça veut dire, du coup, il pouvait pas faire 100% confiance à Hachem, puisqu'il reste encore, mais est-ce que Paro va être d'accord? Donc, c'est ces situations où Akadosh Baruch Hu, il agit de façon ambiguë. Ça veut dire, on va comprendre que, il s'agit de construire une confiance. Et donc, il faut laisser à l'autre le temps de reconnaître effectivement qu'il ne peut vraiment rien faire, qu'il est obligé. Et ça va montrer la toute-puissance d'Hachem. Pourquoi Hachem a fait comme ça? On lui dit, j'ai déjà dit plusieurs fois, Akadosh Baruch Hu voulait, on l'a vu la semaine dernière, il voulait que l'Égypte reçoive des coups. Il voulait leur donner la possibilité de continuer de fauter. Mais finalement, c'est marqué qu'il me faisait kiad, aussi à nous Hachem et Mitzrayim. Donc, du coup, il faut poser la question. C'est quoi le chidouche? Et qui est-ce qui est à ce point-là aveugle pour ne pas voir que c'est Hachem qui a sorti les bénis Israël de Mitzrayim? Il faut regarder comment était la façon dont les bénis Israël sont sortis d'Égypte. Au début de Makat Bechorot, c'est écrit Va'atem lotetsu ish mi petach beto ad boker. C'est marqué, Hachem a dit aux Bnei Israël, vous ne sortez pas de chez vous jusqu'au matin. Bien que Paro, à Hatzot, à minuit, il a crié à Moshe, à Aaron, Kumutsu mitochami, sortez de mon peuple. Et les Mitzrim poussaient, sortez, sortez vite, etc. Néanmoins, ils ne sont pas sortis jusqu'au matin. Et au matin, il fallait courir, il fallait sortir à toute vitesse. Finalement, au moment où ils sont sortis d'Égypte, ils sont sortis, comme on le dit, dans la Béhala. Ce qu'ils disent dans la Haggadah, ils commencent la Haggadah, Bibilou Yatsanu Mitzrayim. Pourquoi? C'est comme ça qu'Hachem a ordonné que les Israël devaient se conduire. Ils doivent sortir de Chipazon. Ils doivent sortir en courant d'Égypte. Ils n'ont pas pu sortir avec un train de sénateur, etc. En disant, ne me dis pas comment je dois sortir, ne me dis pas ce que je dois faire, je sors comme j'ai envie. qui n'ont pas eu la possibilité de voir que c'était Hachem qui les sortait d'Égypte et pas Paro. Ils avaient l'impression que quelque part, dans cette sortie d'Égypte, il y avait quelque chose de matériel, quelque chose de d'ordinaire, de Basarvadam, quoi. C'est-à-dire que la chose dépendait un peu de Paro. C'est pour ça que c'est écrit dans le Passouk. Beshalach Paro et Ham. Pourquoi? Parce que pour eux, les choses apparaissaient comme si c'était Paro qui leur permettait de sortir. Parce qu'ils voulaient bien, mais qu'il aurait pu dire non. C'est pour ça que pourquoi il ne les a pas guidés en passant par le pays des Plishtim? Kikarov ou Karov Midaï, la clan Israël, c'est trop proche pour les Bnei Israël, tant qu'ils sont encore dans cet état d'esprit. C'est pas que les Plishtim vont faire la guerre contre eux. Maintenant. Ils vont pas faire la guerre maintenant. Mais il viendra un temps dans le futur. C'est-à-dire, quand les Bnei Israël ne mériteront pas ce qu'ils méritent maintenant, et à ce moment-là, il y aura des gens parmi les Bnei Israël qui diront, qui vont se conduire de telle sorte que ce sera justifié de dire Peninachem ha'am birotam milchama beshavu Mitzrayim. Il est à craindre, il y aura des situations dans lesquelles les gens vont dire, en retournant en Égypte, il viendra un temps où il faudra faire des efforts, et il va falloir faire la guerre. Comme c'était le cas à l'époque de Goliath. Ils ont été obligés de faire la guerre. Et tout le monde était mort de trouille. Avait, personne n'était prêt à faire la guerre contre, à aller se battre contre Goliath. Dans le futur, le clan d'Israël va devoir, il va devoir conquérir Eretz Israël. Bien entendu, Akadosh Baruch Hu aurait très bien pu faire en sorte que, de façon miraculeuse, rien ne se serait opposé à leur entrée en Eretz Israël. Il aurait pu, Hachem aurait pu faire disparaître les Cananéens. Mais pour une raison qu'on ne connaît pas, il n'a pas voulu faire ça. Il a voulu que Eretz Israël soit conquise de façon naturelle, avec des guerres. Bien sûr, Hachem est Ish Milchama. Et il va gagner la guerre. Mais les Bnei Israël doivent y faire ce qu'on appelle l'ishtadlout. Ils doivent faire quelque chose. Ils doivent élaborer des stratégies. Un homme doit savoir que s'il gagne dans la guerre, il ne peut pas dire Kochi ve'otzem yadi. Asali et Achelazé. C'est pas moi qui ai fait la chose. Vous vous souvenez, on en avait parlé déjà. Ça, c'était la qualité de David Ameller. C'est en ça qu'il est exceptionnel. C'est qu'il faisait des guerres, qu'il était un excellent stratège, mais lui, quand il avait gagné la guerre, il disait, c'est Hachem qui a gagné la guerre. Et c'est ce que les rois qui viennent après lui disent à Hachem, écoute, nous, on n'est pas à ce niveau-là. Nous, si nous, on fait la guerre et qu'on gagne la guerre, on va dire que c'est nous qui avons gagné la guerre. Or, il faut qu'on puisse dire très clairement que c'est Hachem qui gagne la guerre. On a besoin de le voir concrètement. Donc chacun a proposé sa façon de le montrer, jusqu'à Hizkiyahou, qui a dit, il faut qu'on gagne la guerre en dormant. C'est le seul moyen de voir avec nos yeux que c'est Hachem qui gagne la guerre. Si on y est pour quelque chose, ça va rater. Et comme vous savez, Hachem leur a fait en sorte qu'ils gagnent la guerre pendant la nuit. Ils ont gagné la guerre. Et ça n'a quand même pas marché. Hizkiyahou, il a trouvé une explication. Comme quoi, c'est lui qui avait gagné la guerre. D'accord? Vous vous souvenez? Ils ont gagné la guerre parce que tout le monde étudiait la Torah. Mais qui les a obligés à étudier la Torah? C'est moi. J'ai planté une épée sur le parvis du Beth Amikdash. J'ai dit que toute personne qui l'étudierait pas serait passée au fil de l'épée. Et donc, c'est quoi? C'est grâce à moi. Ils disent, on dit, il n'a pas chiré, il n'a pas chanté. Donc, il n'est pas devenu Mashiach. Le Mashiach, c'est quelqu'un qui doit pouvoir dire, doit pouvoir faire les guerres et dire, c'est Hachem qui les a gagnées. Et pas moi. C'est ce qui n'a pas marché avec Bar Kokhba. Il a attrapé la grosse tête. Et bien Israël, à la suite, donc ils vont s'installer en Eretz Israël. Il y avait sur cette terre d'Eretz Israël plusieurs dévoilements miraculeux en quelque sorte. Les fruits d'Eretz Israël que les explorateurs ont ramené étaient des fruits extraordinaires. En particulier, on a eu le Beth Amikdash. Dans le premier Beth Amikdash, il y avait tous les jours 10 nissim glouim, 10 miracles constatables par les yeux de Monsieur Tout le Monde. Comment, dans une telle situation, comment peut-on ne pas faire confiance en Hachem? Comment bon, c'est possible? Alors il faut comprendre que quand on s'habitue, on est simple. Alors ça devient naturel. C'est naturel. Après tant d'années où Klal Israël a mangé de la manne, à leurs yeux, finalement, c'est devenu une nourriture ordinaire. Si les Bnei Israël restent dans cette façon de voir le monde, ben, ils vont jamais croire, hein, ils vont jamais faire confiance à Hachem. Et donc, le Ribbono Shel Olam était obligé de leur montrer encore mieux ses forces, sa puissance, Pourquoi? Pour fortifier leur émouna. Donc quand ils sont sortis d'Égypte, ils ne pouvaient pas reconnaître Hachem dans une situation d'Esther Panim. Si Hachem avait détourné son visage, il ne le voyait plus du tout. Il ne le voyait plus dans la situation. Parce qu'ils étaient tellement habitués à la magie, toute l'Égypte, c'était un pays de magie. Alors, était obligé de faire pour eux des miracles. Parce que sinon, les autres étaient plus forts, quoi, quelque part. Et donc, du coup, il fallait qu'ils comprennent que c'est Nissim. Ils ont compris, comprendre que même quand ils voyaient des choses qui avaient l'air naturelles, c'était aussi des miracles. Donc, ils avaient besoin d'un renouveau continu. Pour se souvenir que ce qu'il voyait, c'était mais ça venait d'Hachem. Jusqu'à ce qu'il arrive au niveau de reconnaître que le Derech HaTeva, c'est aussi la main d'Hachem. Le Derech HaTeva, c'est Elohim. Le clan d'Israël n'était pas encore à ce niveau-là. Et c'est pour ça que, en vérité, ils sont partis de Mitzrayim et ils sont sortis de Mitzrayim, ils étaient armés. Bon, quand on dit qu'ils sont sortis de Mitzrayim, ils étaient chamouchim. Chamouchim, ça veut dire armés. On fait la dracha que chamouchim, c'est chamesh, c'est un cinquième seulement, etc. Mais ça, c'est la dracha. Mais le pshat hamushim, ça veut dire armée. Et pourquoi? Parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur comme on a naturellement peur. Ça fait peur de sortir dans le désert comme ça. Bien sûr que ça fait peur. Quand les meraglim sont revenus, ils ont dit, ah, il y avait là-bas des géants. Et ils avaient peur. Pour cette raison, le Ribbon Shalom, il ne les a pas fait passer par Eretz Plishtim, Kikarovu. C'est le pshut, le pshat. Nous, on a l'habitude d'expliquer que c'était trop près, au sens de kilomètres. Mais il faut plutôt expliquer, ou on peut expliquer en tout cas, c'est trop proche au sens du temps. C'est-à-dire, il n'était pas prêt, l'Ibn Israël, à cette épreuve-là. Ils avaient encore besoin de développer leur confiance en Hachem. À ce moment-là, les Bnei Israël ils pourront affronter les Plishtim sans avoir peur. C'est pour ça que le Ribbon Shalom a dit que je vous donne effectivement la terre d'Israël. Et donc, on peut y entrer. Et on peut y entrer en y faisant la guerre. Mais ils devaient apprendre que de savoir qu'ils vont gagner la guerre, même si les autres sont venus avec tout leur armement, etc. Clan Israël, quelle que soit la situation, le clan Israël gagnera. Nous ne savons pas de façon certaine. Comment ils ont vu, ou plus exactement, comment ces Nissim supplémentaires vont les faire évoluer dans la Emouna, dans la confiance en Hachem? On ne sait pas. Et ce qui est sûr, c'est qu'ils avaient besoin de voir encore d'autres choses, d'autres Nissim, pour avoir confiance. C'est comme ce qui s'est passé avec Hanouka. Hanouka, comme on dit, c'était Rabim biyad me'atim, Tmeim biyad Torim, Rshaim biyad Tzadikim. C'était toujours des Nissim. Chaque chose était un S. Que les nombreux tombent aux mains des peu nombreux, que les Tmeim, tout ça c'est du S. Mais tant qu'on ne voit pas le nes de la menorah, tu sais pas que c'est Hachem qui est derrière cette victoire militaire. Parce qu'il y a toujours des cas où les choses semblent se dérouler contrairement aux lois de la nature. Il y a des exceptions. Je sais pas, il y a des machines de guerre qui s'enrayent, ça arrive. Ça arrive très peu souvent, mais quand ça se passe à un bon moment, ça peut être extrêmement important. Non, on ne sait pas comment ça fonctionne, mais ça fonctionne en quelque sorte. Alors, si tu dis que c'était pas tellement extraordinaire que les Hashmonaïm ont gagné cette guerre contre les Yévanim, si tu dis ça, alors le Ribon Shlomi te dira pas du tout. C'est moi qui étais derrière ces victoires militaires. Comment est-ce que je voulais montrer? Je voulais montrer avec le nes de la menorah. Avec ce nes-là, je vous ai montré. C'est moi qui suis derrière les miracles. Les Bnei Israël, ils avaient encore besoin de voir d'autres choses, de voir pour arriver à comprendre et à faire confiance qu'il n'y a pas de différence entre le Teva et le Nes. Ça veut dire que le Teva, c'est autant un Nes qu'un Nes Galouï, en fait. Tous les matins, on fait une bracha, on fait des brachot, on fait une bracha, Baruch Atah Hashem, etc., Pokeach Ivrim, ou bien Amechin Mitzadeh Graver, Anoten Laevka Koach. Pourquoi on dit tout ça? Parce que nous, on a besoin de faire confiance que c'est vraiment comme ça. Les gens, ils prennent ça comme une évidence. Mais comment on peut convaincre quelqu'un de faire confiance au Ribbono shel Olam? Éventuellement, s'il voit qu'il fait des nissim, fait des miracles, là, ils vont commencer à penser. Comme Khanina Ben Dossa, que c'est pas le venin qui tue, c'est le fret, c'est la faute qui tue. Est-ce que tu vas penser, l'exemple de Khanina Ben Dossa, c'est l'histoire du vin et du vinaigre, de l'huile et du vinaigre. Si tu penses que le fait que l'huile brûle, ça n'est pas un S. Que c'est pas un ordre d'Hachem. Alors, pour dire, si, mais si tu penses, alors maintenant, alors, disons le contraire, si tu penses qu'effectivement, c'est simplement, Hachem a décidé que c'est comme ça. Alors que de même manière qu'Hachem peut ordonner à l'huile de brûler, il peut aussi ordonner au vinaigre de brûler. Nous, intuitivement, on pense exactement le contraire. Nous, on pense que seulement si j'ai vu qu'une fois il a donné l'ordre au vinaigre de brûler, alors j'en déduirai que c'est aussi lui qui donne l'ordre à l'huile de brûler. Donc si j'ai vu ça, mais j'ai besoin de voir la première fois. Les Bnei Israël, ils n'étaient pas prêts. Et donc, il pouvait donner toutes sortes d'explications. Celui qui pense, qui fait pas confiance en Hachem et qui argumente et te dit, si vraiment il est tout-puissant, alors pourquoi il fait telle et telle chose? Et toi, tu vas discuter avec lui, tu le répondre. Le seul moyen de le persuader, c'est de lui montrer qu'Hachem ish milchama. Comme les Bnei Israël l'ont dit dans la Shira. Hachem ish milchama. Nous, on n'a pas lutté contre les Égyptiens. Hachem a lutté contre eux. En fait, il n'y a pas du tout eu de guerre. Les Israéliens n'ont pas fait la guerre contre les Égyptiens. Les Égyptiens, ils ont été noyés, c'est tout. Ils n'ont pas fait la guerre. Donc, quand c'est marqué dans le passouk, Kikarovrou, parce que c'est proche, ça veut dire c'était trop proche pour leur imposer cette épreuve-là. Les Bnei Israël, on venait de sortir d'Égypte, ils n'avaient pas encore construit suffisamment leur émouna en Hachem. n'étaient pas persuadés qu'Hachem était avec eux. Et donc Hachem dit, il faut que je leur montre encore d'autres Nissim avant ça. Et en fait, dans les Tehillim, c'est marqué que plus Hachem leur a montré de Nissim dans le désert, plus ils ont posé des questions, ils ont douté. Dans l'histoire des Meraglim, ça se passe la deuxième année, ouais. Là-bas, c'est marqué Vaynassu oti ze eser permis. Hachem dit, ça fait déjà 10 fois qu'ils me mettent à l'épreuve, les Bnei Israël. C'est ce qui est écrit dans les Tehillim. Ayuchal lechem tet, est-ce qu'il pourra nous donner du pain? Est-ce que le Ribon Shalom pourra nous donner aussi du pain? Peut-être qu'il peut nous donner seulement de l'eau. Il nous a donné de l'eau, il y a le puits de Myriam qui nous accompagne. De l'eau, il est capable de donner, mais peut-être qu'il n'est pas capable de donner du pain. Oui, il sait faire seulement ça et passe. Peut-être qu'il a une force limitée. On n'a pas encore vu quelque chose qui soit terrible, quoi, quelque part. Quelque chose à partir de quoi on puisse dire que non, c'est lui qui fait tout. C'est la Emouna que Hachem voulait que les Bnei Israël acquièrent. C'est pour ça que ils avaient besoin de toutes ces étapes miraculeuses, en fait. Ils avaient besoin de la manne. OK, tout ça, c'est vrai, mais ça suffit pas. Les gens vont dire, non, non, mais ouais, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça, mais ça ne me suffit pas. Ça veut dire que les Bnei Israël, ils doivent être éduqués avec des Nissim. Jusqu'à ce qu'ils arrivent au degré de confiance en Hachem, Ani Ma'amin, Shehu Kol Yachol. Bon, ça fait dans, on dit, Vechol Ma'aminim, Shehu Kol Yachol, dans le Kol Ma'aminim. C'est-à-dire, nous avons confiance qu'il est tout-puissant. La question, c'est, est-ce qu'on a vraiment confiance qu'il est tout-puissant? Il n'y a aucune limite. C'est pour ça que c'est marqué Vayehi au début de la paracha, la Shonsa. Je vous ai montré que votre sortie d'Égypte, elle a eu lieu de façon complètement miraculeuse. Mais ça n'était pas suffisant pour pouvoir vous amener directement en Eretz Israël. Kikarovu, parce qu'on était trop proche de la sortie d'Égypte. Vous avez encore besoin d'être éprouvé de façon naturelle. C'est-à-dire, vous avez besoin d'être capable, vous devez encore travailler pour arriver à ce niveau où on peut vous éprouver de façon naturelle. Si on vous éprouve de façon naturelle, il faut que vous compreniez que c'est aussi de façon miraculeuse. Ce qui vous arrive, c'est tout aussi miraculeux qu'une épreuve de façon miraculeuse. Là aussi, c'est HM, exactement de la même manière que dans un S. Et donc pour ça, vous avez encore besoin de Nissim. Alors, c'est un peu paradoxal, mais c'est avec des Nissim qu'on va construire la présence d'Hachem dans les situations naturelles. Il faut des Nissim qui sont tellement impressionnants qu'on va comprendre que, effectivement, ben, le fait que l'huile brûle, c'est aussi peu naturel que le fait que le vinaigre peut brûler. Tout ça, ce sont des lois de la nature. Mais les lois de la nature sont des lois qu'Hachem a instaurées. Et c'est ça, c'est. Alors non, évidemment, on ne sait pas pourquoi Hachem a fait en sorte qu'il y ait des lois de la nature. Ce qu'il aurait pu nous donner à comprendre tout le temps, que c'est lui qui nous donne. Mais si c'était tellement toujours évident, alors peut-être ça nous aurait mis mal à l'aise. On aurait été dans une, on est dans une dépendance complète tout le temps. Donc, il faut que on puisse s'imaginer ne pas être dépendant, mais savoir que on ne l'est pas. Bon, ça veut dire, on a l'impression qu'il y a des lois de nature, donc si je fais comme, si je sème au moment où on doit semer, si je travaille le champ comment il doit être travaillé, bah, c'est normal que j'ai des fruits, quoi. C'est normal. Il y a un Tosfot qui dit, que si on étudie, il est normal qu'on devienne un Adam Gadol. C'est normal. C'est pas extraordinaire. C'est tout à fait normal. Si on étudie, ça marche. Alors bien sûr, il faut comprendre exactement ce que veut dire étudier et tout, mais il veut dire qu'il n'y a pas de possibilité que quelqu'un étudie sérieusement et qu'il ne grandisse pas vraiment. La Gemara, elle envisage néanmoins que quelqu'un, après 5 ans, ça ne marche pas, quoi. N'arrive pas à étudier, etc. Ouais, il faut regarder est-ce que c'est contradictoire ou pas. Et oui, c'est pas, ça ne doit pas être contradictoire. Alors, on avait dit en passant que Hamushim alu bnei Israël me'eretz Mitzrayim. C'est le verset 18. Rashi explique, d'après le pshat du verset, que les Bnei Israël ont pris avec eux des armes. Kedeshi yucholim lilachem neged pour pouvoir faire la guerre contre les Égyptiens, contre les Plishtim. Or, sur la question de savoir comment ils sont, d'où est-ce qu'ils avaient des armes, bon, peut-être ils ont acheté les armes chez les Mitzrim. Rashi, il ajoute, Echan roim sheishtamshu beklezain. Où voit-on que les Bnei Israël ont utilisé les armes? On le voit dans la Melchama contre Amalek. Et où est-ce qu'ils avaient les armes pour lutter contre Amalek? On est obligé de dire qu'effectivement, c'est les armes qu'ils ont sorties avec eux d'Égypte. Alors, a priori, on peut dire que cette preuve de Rashi, elle n'est pas vraiment convaincante. Parce que peut-être que, en fait, les armes, ils les avaient récoltées dans le butin de la mer. Ils ont utilisé ces kélim-là, ces ustensiles-là, ces instruments, ces armes, pour lutter contre Amalek. Et puis, en fait, Hachem ne les a pas du tout amenés du côté des Plishtim. Il a fait prendre un autre chemin. Hamidbar. Et donc, du coup, c'est un peu compliqué le pshat de Rashi. Pourquoi ils avaient besoin de Klezaïn, puisque Hachem ne les amène pas sur le chemin des Plishtim? Quels étaient les ennemis? Est-ce que dans la guerre contre... Au moment de la mer, ils avaient besoin d'armes. Ils n'ont rien fait. C'est pas eux qui ont fait la guerre. On lui dit, je vais expliquer que Enoch Enami, c'est pas le pshat du verset. Que Chamushim porte à la davar chez Klal Israël nasu itam. Kidé la fcherotam la tset mimitsraï. Qu'en fait, c'est pas du tout des armes pour faire la guerre. Ils avaient besoin de certaines choses qui leur permettent de sortir d'Égypte. Ils avaient besoin de ce qu'on appelle klezaïn, c'est-à-dire des armes. Pour fabriquer kriatiamsouf. Parce que fendre la mer, ce n'est pas quelque chose d'évident. Or, cette force-là, fendre la mer, il faut qu'elle vienne d'Ebné Israël. À Klizaïn, Likroa et Tayam, l'arme qui permet de fendre la mer, c'est Atzmot Yosef. C'est les ossements de Yosef. C'est marqué Ayam Ra'a Vayanos. Qu'est-ce que la mer a vu qui l'a fait fuir? Ayam Ra'a Adam Shekiyam. La mer, elle a vu cet homme qui a accompli le verset. Il s'est Il s'est enfui et il est sorti dehors. C'est Yosef avec Madame Potiphar. Si on n'avait pas ce mérite-là de notre côté, on serait retourné en Égypte. Et il y aurait eu le Corban aussi. Parce que les Bnei Israël, parce que les Bnei Israël ont fait la guerre, quelques-uns sont morts, et les autres, ils vont retourner en Égypte comme prisonniers de guerre. C'est pour ça que la carte, le ticket pour être libéré, c'est Atzmaout Yosef. Parce que si la mer ne veut pas être fendue, alors on est obligé, on retombe aux mains des Égyptiens. Donc on retourne en Égypte. Comme Chazal dit, Amibli Enkvarim Bemitzraim. Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte que tu nous as fait sortir d'Égypte pour avoir des tombeaux dans le désert? On retourne en Égypte. Hamushim alou bnei Israël, Meretz Mitzrayim, l'arme qu'ils ont pris avec eux, c'est Atzmaout Yosef. Après cela, ils sont partis dans la direction du désert, vers l'est. Si on va vers l'est, comment ils sont censés arriver en Eretz Israël? En Égypte, tu vas aller en Libye, où est-ce qu'ils vont arriver en Eretz Israël? Et le Ribbon Shel Olam, il a préparé le chemin de telle sorte qu'il voit encore des nissim, comme on a vu, pour que chacun soit transformé et devienne un Yarei Shamaim, quelqu'un qui craint le ciel, à un niveau très élevé. Qu'il sache que, en vérité, ça n'a aucune importance. On aille par ce chemin ou par celui-là, ça change rien du tout. De toute manière, le Ribbon Shel Olam est avec eux, et ils n'ont rien à craindre. Elle est basoussim, elle est basoussim, elle est barechem, elle est basoussim, anachum shem Hashem. Quand l'Israël, il fallait que ils intègrent mieux le processus de ces miracles pour qu'ils arrivent effectivement à ce niveau spirituel où les Ribbono shel Olam veut qu'ils arrivent, comprendre que Hachem est Kol Yachol, il peut tout, qu'Akol Shelo, tout lui appartient. Toutefois, par le fait que le Ribbono shel Olam a donné la pensée et leur a mis dans la tête de prendre avec eux des armes, il est obligé de dire que ça veut dire qu'ils n'étaient pas prêts à avoir des nissim. Ils n'étaient pas prêts non plus au processus de faire les choses par soi-même, un peu, puisque ils ont pensé qu'ils avaient besoin d'armes. Mais pourquoi ils ont besoin d'armes? Si c'est Hachem qui fait tout pour nous, pas besoin d'armes. Si Hachem est Ish Milchama, alors obligatoirement, puisqu'en vérité, ça se passera jamais comme ça. Il y aura une anaga de Esther Panim. Venistim, il y aura des miracles, mais des miracles cachés. Il n'y aura pas des miracles évidents, comme on a déjà dit plus haut. Cette histoire des Hatzmot Yosef, on a vu donc que c'était ce qu'il fallait pour fendre la mer. Et bien Israël, ils avaient pris avec eux, sans le savoir, ce dont ils allaient avoir besoin pour fendre la mer. Pourquoi? C'est écrit Mefourache dans le Passouk, qui Ashbea Ishbia et Bnei Israël, les mots, Pakod Ifkod Elokim Etrem, Paritem et Atzmotai Mise Itrem. La raison pour laquelle ils ont pris les Atzmot Yosef, c'est pas parce qu'ils ont compris qu'ils en auraient besoin. Parce qu'il leur a. La raison, c'est qu'il. Lui. Yosef, il n'a pas voulu compter sur sa seule famille pour garantir qu'on va prendre ses ossements. Ou bien parce qu'il savait que ça leur serait difficile. Comme on voit que les Égyptiens, ils ont essayé de cacher justement le cercueil de Yosef. Les Égyptiens, hein, ils n'ont pas caché les cercueils des autres frères, des autres tribus. Parce que c'était pas, il n'était pas avec eux, quoi, quelque part, les autres tribus. Mais le Aaron de Yosef, celui-là, ils ont voulu le cacher. Parce qu'ils ont pensé que c'était à eux. Et c'est pour ça que Yosef, il a voulu rendre tous les Bnei Israël responsables de veiller à ce qu'ils soient enterrés en Eretz Israël, pas seulement sa famille. Alors peut-être qu'effectivement, on peut dire que cette façon de faire n'est pas la bonne. Parce que quand tout le monde est responsable, alors personne n'est responsable. Tout le monde est responsable. Donc tout le monde a pensé, non, mais quelqu'un d'autre va le faire. Pourquoi est-ce que moi je dois me fatiguer? En fait, c'est ce qui s'est passé finalement. Tout le monde a dit, OK, que Moshe le prenne. Donc, c'est pour ça que Moshe l'a fait tout seul. Car Moshe, Tatmot Yosef, Imo. Donc, vraiment, le passouk aurait dû figurer, le passouk qui aurait dû être écrit là, c'est Vaikar Israël ou Vaikar Vaikroub Israël, mais Tatmot Yosef, Imam. En vérité, il y avait deux raisons pour sortir les Hatzmot Yosef, les ossements de Yosef de Mitzrayim. Premièrement, à cause de, il les a fait jurer, ils avaient juré qu'ils allaient le faire. Et deuxièmement, on a dit que, On avait besoin de ça pour fendre la mer. Il n'aurait pas pu se sortir de cette Sarah qui a annoncé de ce problème incontournable, enfin, insoluble pratiquement, s'il n'y avait pas Atmos-Tessef. C'était le seul moyen qui permettait de passer la mer. C'est comme ça qu'il faut lire le verset. Vaikach Moshe Tatzmot Yosef Imo. C'est pas marqué Ito. Imo. Parce que le sens du mot Imo, c'est Shenaaseh Chelek Mimenu. Ça veut dire que si, comme si Moshe Rabbeinu disait à Yosef, Yosef, j'ai besoin de toi. Je ne peux pas sortir de Mitzrayim sans toi. Donc, tu es une partie de moi-même. Moi, en tant que celui qui doit faire sortir les Bnei Israël, sans toi, je ne peux pas. Donc, si tu n'es pas avec moi, ça ne marche pas. Il y a une différence entre quelqu'un qui a un objet pour lequel il n'est pas prêt à donner la vie, à donner sa vie, et il le perd. Il n'a pas voulu le perdre. Néanmoins, c'est ce qui est arrivé. Bon, ben, ce n'est pas la fin du monde. Cet objet-là, il n'était pas Imo. Il était Ito. Avec, mais pas Imo. Vadaï, que c'est sûr qu'il faisait attention de le garder. Mais pas. C'était pas une surveillance absolument totale. Moshe, lui, il a ressenti que Yosef était une partie de lui-même. Il en avait besoin parce que sans ça, Moshe ne pouvait pas faire ce qu'il devait faire. Ou bien, on peut expliquer aussi, de façon peut-être plus simple, nous avons besoin d'Atzmot Yosef. Sans l'Atzmot Yosef, le Ribon Shel Olam ne nous sort pas d'Égypte parce que nous n'avons pas respecté le serment qu'on a fait. C'est là-dessus que Moshe dit, Ani tsarich she'Atzmot Yosef yu imi. Le maaseh. J'ai besoin que les Atzmot de Sèvres soient avec moi concrètement. Chazal disent que Moshe Rabbeinu, il ne savait pas que qu'il y aurait ce problème avec la Kriyat Yamsouf avant qu'Hachem ne lui dise. Il savait pas qu'il allait se retrouver devant la mer. C'est pour ça qu'on peut poser la question, Lama lakach et Atzmot Yosef, Kvar Arshav. Pourquoi est-ce qu'il a pris à ce moment-là déjà les Atzmot Yosef? S'il ne savait pas qu'il en aurait besoin pour la mer, le sujet de la Shvoa, on peut bien comprendre que il voulait le prendre. Mais d'après la raison que il l'a pris pour fendre la mer, qu'est-ce qu'il pensait? Il l'a pris déjà au départ. Donc, finalement, il s'est avéré qu'il n'aurait pas pu faire Kiryat Yam Souf sans ça. Donc, ce n'était pas vraiment à cause de la Shvoa, pas à cause du serment. On dit Ayam Ra'a Vayanos. C'est-à-dire, Bishrut Ma Shekatuv Etzel Eshet Potiphar, par le mérite de ce qui est écrit au sujet de Yosef dans l'affaire Potiphar, que lui aussi, Vayanas, c'est le même verbe, il s'est enfui et il est sorti vers l'extérieur. Donc les Bnei Israël, ils ont mérité, enfin, ils ont bénéficié de Hayam Ra'a Vayanos, que la mère a vu, elle s'est enfuie. Parce que lui, il a fui devant une situation d'avéra. Et la mère, elle a aussi fui devant la situation de noyer le clan Israël. On a l'impression que si la mer ne s'était pas ouverte, et les Bnei Israël, ils auraient dû avancer, ils se seraient noyés. Et ça, on aurait mis ça sur le compte de la mer. C'est eux, pourquoi ils sont entrés dans la mer? Ils n'ont qu'à retourner en Égypte. On va dire que ce serait, on aurait dit, c'est la mère qui les a tués. Voilà, on s'arrête là.
Merci beaucoup, Rav. Shabbat shalom.
Oui,
Merci.
Chavez.
Shabbat.